Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charlie.
Aujourd'hui, on reçoit un monstre du cinéma hollywoodien.
Oh, attends, t'es sûr que c'est pas à côté qui va chez Antoine Decaune?
Ah non, il vient chez nous là. Et comme je sais qu'Alex aime le cinéma, je vais laisser faire l'interview.
Ah non, voilà. Parce que j'ai un déj suivi avec une attachée de
presse. Non, tu vas adorer, c'est quand même celui qui a fait La jeune fille à la perle.
Colin Firth, Sylvie.
Non, il a reçu 2 Oscars, 3 Césars, 2 Golden Globes.
Ah ouais, il est dans le game quoi, le mec.
Ouais, il a fait plusieurs films de Jacques Audiard.
Oui, mais bon, ce déj, j'ai prévu depuis très longtemps.
Non, attends, la forme de l'eau. The Grand Budapest Hotel, The Tree of Life, mais ça vous dit rien
quoi? Anderson, Terrence Malick. Ah, attends, je pige rien. On reçoit les trois,
mais
là.
Non, on reçoit Alexandre Desplat, le grand compositeur français.
Ouais, enfin, je vois, mais bof.
Ouais, on pouvait pas se payer un acteur, c'est ça? C'est trop cher. Non, mais donc on reçoit le mec qui fait la musique, c'est ça?
Le machiniste de Scorsese, il était pas dispo. Ouais.
Mais je vous interdis déjà!
Non, mais c'est vrai que dans notre émission, on aime bien comme ça mettre en avant les petites mains.
Ouais, c'est l'autre côté de gauche, quoi.
Non, mais vous n'avez pas honte. Le plus grand compositeur de musique de films français, qui a fait carrière en France et à Hollywood.
Moi aussi, j'ai une petite carrière à la télé belge.
J'abandonne. Puis je vous le dis, moi, je vais m'occuper moi-même de l'interview.
Hé! Charline, on n'est pas la peine d'en faire des plats.
Comment elle marche?
Qu'est-ce que je ferais pas pour maintenir un déj?
Dénigrer un génie, qu'a fait Harry Potter d'ailleurs.
Oui, mais tu verrais, l'attachée de presse, elle est vraiment canon. Quoi.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up qui mixe l'information et la blague. Voici les 3 actualités qui vont finir en smoothie. L'Europe est en croisade contre les GAFA et elle travaille à son bouclier pour protéger les droits d'auteur. Paris et Berlin ont réussi à se mettre d'accord, donc la réforme du droit d'auteur est relancée.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe.
Les entreprises adorent se payer les lieux culturels. Alors la culture se met en location, les musées et les salles d'orchestre acceptent de se prêter au privé pour équilibrer les comptes. Mais pour organiser une sauterie dans un musée, par exemple, il faut parfois procéder à quelques aménagements.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben c'est le portrait de ma grand-mère maternelle, voilà.
Enfin, vous n'allez pas garder ça dans le salon?
Si, on va garder ça dans le salon, voilà. Sur ma grand-mère maternelle, je vais garder ma grand-mère maternelle, voilà, là.
Les orchestres français rêvent de cinéma, paraît-il. Il y en a un qui a réalisé ce rêve, c'est l'Orchestre d'Île-de-France avec un nouveau studio ultra performant, car la plupart des musiques de films sont pour l'instant enregistrées dans les pays de l'Est, en Angleterre et en Belgique.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Lui parlait comme ça avant, quand je l'ai connu. Alex Vizorek.
C'est vrai, ça marchait beaucoup moins bien que les attachés de presse à l'époque.
Une belle équipe, évidemment, pour cet invité exceptionnel à 17h20. Celle qui, si elle était une musique de film, serait la musique d'un film d'art et d'essai finlandais de 4h30 sur la solitude d'un joueur de harpe manchot. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pas fait ma maline, j'ai utilisé mon joker, j'ai appelé André Manoukian. Donc on parlera de l'invité de tout à l'heure.
Très bien, à 17h30, celui qui, s'il était une musique de film, serait sans doute du Ennio Morricone. Il était une fois la révolution. Son leitmotiv, Guillaume Meurice, bonjour.
C'est beau, bonjour à tous. Bah, je suis allé parler de François-Xavier Bellamy dans le quartier de Rachida Dati, figurez-vous. Et parmi ceux qui le connaissent, bah, les avis sont plutôt mesurés.
D'une érudition folle, d'un style extraordinaire.
Voilà, la mesure, quoi.
Et enfin, à 17h40, celle qui, s'il était une musique de film, serait du John Barry, Out of Africa, une histoire d'amour impossible, comme la nôtre. Clara Dupont-Moineau, bonjour.
Bonsoir Alex.
Qu'on va parler ?
On va parler de la plus grande femme du monde.
Dites donc, Charlie Dunaker.
Oui, voici celui qui va harmoniser notre open space. Vous êtes, je vous laisse nous le dire correctement, car nous nous sommes
voilà,
trompés.
C'est déjà planté.
Je vous laisse nous le dire très très bien, vous êtes...
Alexandre Desplat.
Oh Desplat.
France Inter.
C'est pas le même ?
Charlie Dunaker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Alexandre Desplat.
Merci de m'accueillir.
Nous sommes très honorés de votre visite. Vous venez nous voir pour quelque chose de très précis. Alors vous êtes bien sûr 10e nomination aux Golden Globes et aux César, 9e nomination aux César.
Vous êtes blasé maintenant, non?
Non.
Non, c'est vrai, toujours pas?
Ben non, pourquoi? C'est génial, à chaque fois c'est un renouvellement.
Mais vous venez nous voir aujourd'hui, et on est très curieux de ça, parce que vous créez votre premier opéra de chambre, intitulé Silence, d'après une nouvelle de Yasunari Kawabata. Le livret a été coécrit avec Sol Ray, votre compagne, Alexandre Desplat. D'abord, expliquez-nous, pour nous qui sommes béotiens en la matière, qu'est-ce qu'un opéra de chambre Et est-ce que c'est un fantasme pour un compositeur et un chef d'orchestre comme...
J'avais jamais pensé écrire un opéra, et puis en lisant cette nouvelle il y a quelques années, j'ai trouvé qu'il y avait un objet très poétique et très retenu, peut-être comme souvent les romans de Kawabata. Il y avait quelque chose qui vibrait quand je lisais ça, et je me suis dit que c'était possible peut-être d'écrire pour la voix, ce que je ne fais pas beaucoup au cinéma. Mm-hmm. J'écris beaucoup pour l'orchestre ou pour de la musique de chambre, des petites formations, ou du jazz ou d'autres, mais j'ai jamais écrit pour l'art lyrique, donc c'était une prise de risque un peu bizarre, mais j'ai pensé que c'était possible. Alors justement, le fait que ce soit un orchestre de chambre, un opéra de chambre, c'est une petite forme. Mm-hmm. C'est pas très long, ça fait pas 5 heures. Il n'y a pas de chœur et un orchestre symphonique, il y a seulement 10 musiciens, un narrateur et deux chanteurs. Donc c'est une petite chose où voilà, je vais à peu mesurer dans l'art lyrique. Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher un texte japonais? On vous connaît dans le champ entre l'Europe, Hollywood, la littérature japonaise, et puis peut-être vous fait vibrer, vous avez trouvé une résonance dans ce texte.
J'ai toujours aimé la culture japonaise en général, des arts martiaux au kimono, en passant par le thé vert que je bois tous les matins.
Mettez un peu de miel dedans.
Ah non, surtout pas.
De bois.
Vous savez qu'en 8e, on faisait beaucoup de blagues sur des plats, d'ailleurs. Je vais voir. J'étais en 8e.
Vous nous les donnerez tout à l'heure.
En 9e aussi, je me battais beaucoup.
Je suis le cancre de la classe, vous le savez bien.
Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, voilà. Donc,
c'est cette
proximité que j'ai avec la culture japonaise que j'ai toujours beaucoup aimé, et Solvay aussi d'ailleurs. Mm-hmm.
Est-ce que dans cette histoire, justement, vous avez coécrit le livret avec Solvay, qui met en scène ici aussi? Est-ce qu'il y a vous avez trouvé dans cette histoire de Yasunari Kawabata où il y a ça parle de création et d'empêchement dans la création.
C'est ça.
Vous pouvez raconter l'histoire.
En deux mots, c'est très, très simple. C'est un jeune écrivain qui rend visite à son vieux maître, qui ne peut plus écrire, qui lui aussi écrivain, et qui ne peut plus écrire, qui a une attaque, qui est donc aphasique et paralysée. Et c'est le questionnement de sa fille et de ce visiteur sur l'impossibilité de créer. Comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre l'œuvre de cet homme? Et il se trouve que Solvay a vécu, elle était violoniste, elle a vécu un peu une tragédie de ce type, donc c'est quelque chose aussi qui était proche de notre... de nous.
De votre
histoire.
De notre
nous.
Ouais.
Est-ce une hiérarchie, parce que pour les comédiens qui montent sur scène, on leur demande toujours, et le cinéma, est-ce que tu en rêves? Sous-entendu, pour un acteur, l'aboutissement, c'est le cinéma. Est-ce que pour un musicien, l'aboutissement, c'est l'opéra, et vous vouliez peut-être aller vers ce art-là?
Non, pour moi, ça n'a jamais été un aboutissement. Non, déjà écrire pour un orchestre symphonique, ou écrire un quatuor à cordes, c'est quelque chose de, c'est un vrai, déjà. Non, l'opéra, je crois que c'est un choix esthétique. Faut aimer le mot, faut aimer la prosodie. Des compositeurs comme Pascal Louis Sapin ont écrit beaucoup d'opéras, je crois qu'il est à son 7e ou son 8e, il vient de finir un Macbeth, et c'est quelque chose qui vraiment le fait vibrer le matin. Moi je fais plus vibrer mes sensations par les images, donc c'est aussi une autre...
Et vous êtes facétieux parce que votre premier opéra s'intitule Silence, et ça quand même...
Ça s'appelle Silence, et j'ai perdu ma voix cet été en l'écrivant. C'est
vraiment n'importe quoi. Vous passez de l'image au spectacle vivant. Réfléchissez aux questions à vous poser tout à l'heure avec Ménalit Boer, qui avait trouvé une belle formule en disant, en passant au spectacle vivant, est-ce que vous cherchez à vous confronter au vivant et à l'accident, finalement?
C'est à la fois se confronter à l'accident, se confronter à un autre média que ce que je fais jour et nuit depuis des années maintenant, même si par le passé j'ai écrit pour le théâtre. Mais c'est vrai que d'abord écrire pour la scène, on peut se cacher derrière rien du tout, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de bruitage, c'est la musique et le spectateur en direct. Donc c'est déjà un challenge énorme. Et puis, dans l'espace qui va être celui du Grand Théâtre du Luxembourg, puis des Bouffes du Nord, il va y avoir cet espace minimal que Solvay a créé. Et là, les musiciens, au lieu d'être cachés dans une fosse, ou en noir comme ça, cachés derrière un rideau, vont être sur scène, avec des costumes magnifiques que Pierpaolo Piccioli a dessinés. Et ils font partie de la mise en scène. Donc il y a vraiment un travail où la musique fait partie du spectacle vivant, mais complètement. Elle n'est pas, voilà, les musiciens sont pas cachés en coulisses ou dans une fosse. Alors qu'à l'opéra, très souvent, les musiciens disparaissent, sont cachés au fond quelque part.
Oui. Et nos auditeurs se disent, mais où voir en silence le premier opéra de chambre d'Alexandre Desplat et Solray, 26 février au Grand Théâtre du Luxembourg, ainsi que les 2 et 3 mars au Théâtre des Bouffes du Nord. On va en reparler bien sûr, car Alexandre Desplat est en notre compagnie jusqu'à 18h, avant de s'envoler au firmament des Césars et des Oscars bien sûr. Sur France Inter, mais bien sûr.
Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars. Une étoile a poussé dans ton lit, même sous la pluie, elle brille de sourire. Elle pourrait te sauver pour toujours si tu n'étais pas qu'un vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de chaque nuit, sous ta peau, mon ombre se petit, se divise. Mon ombre, je pars en confetti.
Le vampire de l'amour, c'est Dionysos, bien sûr, sur France Inter, par Jupiter, où nous sommes en compagnie d'Alexandre Desplat, qui crée son premier opéra de chambre, intitulé En silence, le 26 février, au Grand Théâtre du Luxembourg, pour cette grande première. Vous êtes... c'est prêt, on peut dire.
Pas du tout.
Le 26 février, c'est à moi.
La musique est prête, mais on commence à répéter bientôt, oui.
Et les 2 et 3 mars, au Théâtre des Bouffes du Nord. Et puis, on espère, j'imagine qu'il y aura, on pourra l'écouter sur divers supports pour en profiter.
Oui, certainement. Je pense que Warner va s'en occuper. Et puis, vous pourrez aller voir au Japon, certainement, ça va sûr. Je pense que ça très
intéressant. Je suis allé cet été, figurez-vous.
Et bien, vous y retournerez.
Je pense qu'on a beaucoup de points communs.
Oui. Kawabata, notamment.
Kawabata, bien sûr.
Et les sushis.
Voilà.
Bon, alors, ça veut dire que ça, il est temps de dire qui est autour de la table.
Eh bien, vous avez entendu Clara Dupont-Mono qui va parler d'une femme formidable, mais pas de elle. Nous avons Guillaume Meurice qui est allé dans un arrondissement de droite.
Oui.
Et Mélanie Bauer qui parlera de la musique de notre invité.
Et Alexandre Desplat, comme vous êtes auditeur de cette émission,
oui.
Vous savez que maintenant, c'est le moment du journal dont les brèves. Hein.
Ah oui,
je préfère vous
prévenir.
Pour ça.
Je crois qu'il est venu pour ça.
Allez.
S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
Justifiant son départ de La République En Marche, le député Mathieu Orphelin a expliqué qu'il aimerait que les actes d'Emmanuel Macron soient plus forts en matière d'écologie.
Oh, mais il exagère, attendez, en matière d'écologie, Emmanuel Macron, il a mis François de Rugy comme ministre. Alors ça, je suis désolé, c'est un signal fort.
La fameuse lettre aux Français d'Emmanuel Macron n'arrivera finalement jamais dans les boîtes aux lettres.
Eh oui, le jaune de la poste, ça lui a rappelé trop de mauvais souvenirs à mon Manu.
Et les brèves, bien sûr.
Eh oui, je continuerai, moi, à envoyer des brèves aux Français tous les jours. Et commençons par l'immense Gérald Darmanin.
Oui, écoutez bien. Interpellé par une députée, La France Insoumise, sur la hausse des salaires et des minima sociaux, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a convoqué les grands auteurs.
Écoutez. Nous pouvons considérer qu'effectivement la vie, ce ne sont pas des statistiques. Et comme le disait Winston Churchill, ce qu'il montre est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain, ce qu'ils cachent est encore plus. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec vous.
Il est d'accord, mais le petit problème, c'est que c'est pas du tout de Churchill, c'est de Coluche. C'est vrai qu'on les confond souvent, c'est vrai, ça c'est un
même
truc.
Carrière.
C'est, voilà, même carrière, même charisme. Coluche qui disait aussi, la Chambre des députés, la moitié sont bons à rien, les autres sont prêts à tout.
Restons dans l'hémicycle oui. Où Christian Jacob réclame moins de groupes parlementaires.
Et oui, et nous on réclame moins de Christian Jacob et plus de Jean Lassalle éventuellement.
International oui. À présent, en Israël, Benjamin Netanyahou pose avec Donald Trump sur ses affiches électorales.
Et oui. Question slogan, il hésite entre Make Israel Greater Again ou Make Palestine More Little Again. Il hésite encore.
En Iran ?
Oui, un chanteur pop puni pour avoir laissé sa guitariste chanter.
Oui, il s'est vu interdire toute activité musicale car le chant en solo d'une femme constitue une infraction à la loi.
Alors moi, vous savez, je suis progressiste, mm-hmm. Mais j'avoue que quand j'entends Charlotte Gainsbourg, je me dis
non,
que...
Non, vous dites rien. Vous dites
et
rien.
Même vous, avec le mi bémol, ça pourrait être une infraction. Oui, je sais même vous.
Alors, Angleterre.
Pardon.
Voilà. Il y aura un plan secret pour évacuer, je vous interdis. Il y aura un plan secret pour évacuer la reine en cas d'émeute post-Brexit.
Oui, à son âge le plus compliqué, c'est pas d'organiser sa fuite, mais de la contenir.
Oh
là là, elle est élégante celle-là. Ça, c'est du Kawabata en plein. Oui, à Vanves. Une classe, j'allais dire à Vanves. C'est une vanne, mais c'est vrai ce qui s'est passé là-bas. En CM2, il y a eu une grève contre la cantine. Et, ne me regardez pas comme ça, Guillaume, vous avez aimé. Ouais. Organiser des manifestations dans les jardins publics, jouxtant l'établissement et à sa tête, à la tête de cette grève, Lily, 10 ans.
On était à l'école et moi j'ai dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que c'est plus trop possible en fait ce qu'on mange à l'école. Et on a commencé à faire des affiches, à faire des tracts.
La fille, fille de Guillaume Meurice. Ah ouais. Elle était ce matin donc sur Europe 1, elle a livré ses meilleurs slogans.
Trop de sauce marron, repas pas bon, même les pâtes au beurre c'est bien meilleur. On en avait un autre aussi, mon estomac n'est pas d'une poubelle, on en a marre des trucs industriels.
Bam, ça pète en chouette.
Ouais, dites donc, allez sport.
Oui, football, la France reste deuxième derrière la Belgique au classement FIFA.
Bah c'est pas drôle ça.
Non mais ça fait vachement plaisir quand même.
C'est oui, vrai, ça c'est vrai. Pardon. Des brèves.
S'il vous plaît.
Des brèves. Chine, l'employé d'une banque a retiré près d'1 million d'euros grâce à une faille informatique des distributeurs automatiques. Et ben voilà, les Chinois ils ont même réussi à faire une contrefaçon de Jérôme Kerviel.
Et la dernière,
Pontalier-sur-Saône. Attention c'est cadeau. Jean-Luc Lahaye sera la vedette de la fête de l'oignon. Attention évidemment si vous êtes une jeune pousse.
Merci Alexandre Vizorek.
On aime la musique dans tous ses états.
Alexandre Desplat, les brèves en live, c'est quelque chose. Hein. Quand on y est, c'est...
Il est très ému.
Et sachez que depuis le mois de décembre, il y a un cycle de concerts consacrés à la musique de film qui est proposé à Radio France, à l'Auditorium jusqu'au printemps, avec la complicité d'Alexandre Desplat. Et puis vous travaillez sur le prochain film de Roman Polanski, J'accuse.
Oui,
c'est ça prévu le 4 décembre.
Et puis le prochain film de Wes Anderson et Greta Gerwig et ouais, quelques projets.
Vous ne chômez pas, hein, ça, on a bien, pour notre plus grand plaisir, Alexandre Desplat. Abordons ce premier sujet qui paraît technique, mais vous vous connaissez, ça va tout de suite être beaucoup
on
plus
simple. On aime la technique. Hein.
Pour protéger les œuvres, les Américains ont le copyright. Pour l'Europe, l'Europe elle travaille à la protection des droits d'auteur pour que les journaux et les agences de presse soient rémunérés quand leur production est exploitée par Google, par exemple. Et pour que les plateformes en ligne qui diffusent de la musique et des vidéos, elles aient des obligations. Paris et Berlin ont enfin réussi à trouver un accord et donc la réforme du droit d'auteur en Europe est relancée. On attend la directive pour le printemps.
Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Vous ne rigolez pas, c'est magnifique, c'est Arnaud Estromaille.
Ah oui, bien sûr.
Eh oui, putain, c'est vachement bien. Alexandre Desplat, l'Europe...
Je suis pour.
Allez, sujet 2.
Une autre question ?
Vous êtes engagé comme chroniqueur immédiatement.
Je suis pour tout ce que vous dites.
L'Europe se casse la tête pour protéger le droit d'auteur, trouver
raison,
des accords,
bien sûr.
Se prémunir contre la voracité des GAFA. Mmh. Vous qui travaillez aux États-Unis et en France, est-ce que vous avez vraiment, pour les droits d'auteur, un pied sur un continent, un pied sur l'autre ? Et est-ce que vos œuvres sont mieux protégées d'un côté que de l'autre, grosso modo ?
Mes œuvres sont protégées de toute façon, mais c'est pas vraiment la question. Elles sont protégées de fait, mais quand vous... Si vous voulez, les sociétés de répartition ont passé des accords, par exemple, il y a très longtemps avec les studios américain. Et par exemple, sur le DVD, les compositeurs ou les auteurs n'ont pas de droit.
Ah bon ?
Et c'est intéressant, aux États-Unis. Donc, mais ça ne suffit pas, semble-t-il. Il faut encore peut-être laisser partir plus de droits. Mais non, la seule chose que je veux dire, c'est que le droit d'auteur, c'est un droit fondamental et qui permet aux jeunes compositeurs, aux jeunes auteurs, de survivre. Moi, j'ai survécu grâce à mes droits d'auteur quand j'étais un jeune compositeur. Mmh. Et sans ces droits d'auteur, je serais pas devenu compositeur, c'était pas possible.
Oui. Je refais autre chose. C'est bien normal que si une de vos œuvres soit utilisée, consommée, vous touchiez quelque chose.
Oui, ou un auteur ou un compositeur, bien sûr. Et oui, mais il y a toujours cette tentation de supprimer le droit d'auteur. Donc il faut toujours combattre cette tension. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous avez remarqué en ce moment qu'il faut combattre pour empêcher que de revenir en arrière.
Et vous faites confiance à l'Europe ou vous êtes plutôt pessimiste sur ce combat ? À votre avis, c'est un combat gagnable ?
Moi, je fais confiance à l'Europe en général. Voilà, je me pose pas la question. J'essaie juste d'être sûr que les, en tout cas en France, la SACEM et la SACEM, toutes les sociétés de répartition soient unies pour...
Parce qu'il y a les GAFA devant.
Oui, mais il faut leur se protéger et défendre nos droits, comme on le fait toujours.
Et pour ça, il faut que toutes les parties européennes trouvent des accords, s'entendent entre elles pour pouvoir élaborer cette directive et que tous les auteurs européens soient protégés. Ça paraît étonnant, c'est ce que vous disiez au début, que sur les DVD aux États-Unis, vous touchiez pas de droit.
Non.
Parce qu'on a vraiment le sentiment que les Américains sont très 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 à cheval là-dessus.
C'est un buy-out. De même qu'on ne touche pas de royalties sur les passages au cinéma, dans les salles.
Donc on vous paye une fois pour votre...
Oui. Et puis si ça passe à la télévision ou à l'étranger.
Okay. Et donc l'Europe pourrait mieux protéger sans doute... être plus protectrice.
Mais pour l'instant, elle est plus protectrice.
C'est déjà le cas. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est déjà un petit peu plus clair, parce qu'on avait un cas concret.
Voilà. L'Europe et la France sont des territoires formidables pour le droit d'auteur.
Beau marché.
Eh oui.
Alexandre Desclat, en notre compagnie, eh bien, revenons à votre œuvre avec Mélanie Boer.
Oui, des droits d'auteur, j'en ai plein. Oui, alors bon, si j'ai choisi votre bande originale du film Godzilla, Alexandre Desplat, pour commencer cette chronique, c'est parce que face à vous, bah, on se sent tout petit. Hein. Ce matin, en écrivant ce grand moment de radio, j'étais tellement impressionnée par votre travail que j'ai appelé André Manoukian à la rescousse, il vous embrasse d'ailleurs, Dédé qui m'a expliqué...
Je ne le connais pas, mais...
Non, mais il vous embrasse,
c'est normal.
Il vous embrasse
quand même. Pas mal,
il embrasse tout le monde.
Oui.
Dédé qui m'a expliqué, tu vois, Mélanie, Alexandre Desplat, c'est le contrepoint au cinéma. Les réalisateurs américains ont besoin d'artistes comme lui, car chez eux, les compositeurs collent à l'image. Ils font de la texture de son, alors qu'Alexandre, lui, il vous tutoie. Il ajoute de la profondeur à l'image avec sa musique, sans en altérer le récit, mais tout en gardant la mélodie. C'est l'école européenne, hein, très très différente de celle des Américains. Bon, après, il m'a parlé de Mozart, qui à la fin de sa vie découvre Bach et qui essaye tant bien que mal d'écrire des fugues à la Bach, et de vous, Alexandre Desplat, qui seriez pour Dédé le Mozart qui aurait réussi à écrire les fugues de Bach. Bon,
j'aime bien ce Manoukian. Bon, il est arménien, mais c'est mes cousins, je suis moitié grec, donc.
Je peux pas valider, hein. Je peux pas valider cette théorie parce que j'ai pas le bagage nécessaire. Ce que je sais, c'est que votre travail est gigantesque, hein, une grande diversité de compositions, d'ambiances, allant du jazz au classique. Vous êtes partout, la pub, la mode, les jeux vidéo, la télé, le cinéma. Votre musique est évidemment présente dans les films, mais aussi avant les films, car cette petite musique-là, bah, c'est aussi vous. Eh oui, on la connaît par cœur.
Ah
oui,
bah,
je ne savais pas, moi.
Droit d'auteur.
Bam. Studio Canal. Alors, ce qui me rassure dans le langage universel de la musique, c'est que même à votre niveau, vous vous interrogez encore et plus que jamais sur la création. Avec votre femme, la musicienne et metteuse en scène Sol Ray, vous vous inspirez de la nouvelle Silence de Yasunari Kawabata pour explorer ce questionnement dans ce premier opéra de chambre. Vous parlez de ce spectacle comme de l'essence à la fois de vos vies personnelles et professionnelles. Ici, la création est symbolisée par le fantôme, elle est ce mystère surnaturel qui va au-delà de ce que l'on perçoit des sens, une transmission, une communication autre.
C'est une répétition.
Oui, c'est une répétition. L'histoire de cet opéra, et là je cite votre présentation, c'est un jeune écrivain qui rend visite à son maître, victime d'un accident vasculaire cérébral. Il ne peut plus ni parler, ni écrire, ni faire le moindre geste. Un tel silence engage des conversations sans réponse, génératrices de pensées pour le patient fantôme. Voilà, c'est ça le langage de la musique. Du silence naît la mélodie. On pense au concerto pour main gauche en ré majeur de Maurice Ravel, par exemple, un concerto composé pour le pianiste autrichien Paul Wittgenstein, qui continuait à jouer du piano malgré la perte de son bras droit à la guerre. Mais on pourrait aussi penser à la contrainte de votre travail de compositeur pour le cinéma, où il s'agit d'apporter une lecture intuitive et sensible au récit qui vous est imposé. Enfin, je terminerai par un dernier clin d'œil à votre musique, pour que le public vous découvre sous un angle plus léger. La consécration pour Alexandre Desplat, ça n'est pas l'opéra, c'est bien avant les Oscars et les médailles, c'est Ça va, une chanson que vous avez réalisée en 2002 avec Carl Zero.
Ça va, quand je suis dans mon auto, ça va, quand je suis dans mon véhicule, ça va, quand je suis dans mon auto, ça va, quand je conduis mon véhicule.
J'embraye.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
Ça va.
Je tourne.
Ça va.
Seconde.
Ça va.
Ça va. Attention.
Ça va.
Feu rouge.
Ça va.
Je respecte le passage piéton.
Ça va, conduire une auto, ça c'est extra, extra. Ça va, je maîtrise bien mon véhicule. Ça va, j'ai des gants de conduite, ça va. Ça va, des gants de cuir qui sont en sky.
Où tu vas?
Je roule. Ça roule. Bouchon, je stoppe. Bonjour monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un débat.
Un débat.
Oh là là. Il y en a qui disent que les motos ça va plus vite. Ils ont bien tort, car quand il pleut, ils sont mouillés et dans mon auto, moi s'il fait froid, j'ai toujours chaud. Et s'il fait chaud, dans mon auto, je mets la clim. Et là j'ai froid.
Ça va,
rien ne m'arrête.
Quand je suis dans mon auto, ça va.
Oh oui.
Ça va.
Je suis un pilote. Je suis
quand je conduis mon auto,
ça va. Je la place comme un car, la place comme un car.
Ça va,
je suis derrière. Je
conduire une auto, ça c'est extra.
Je klaxonne un coup, je klaxonne un coup.
Ça va,
ça va, ça va.
Je vous adore parce que vous adorez ce morceau, alors qu'il vient de faire un opéra.
Ouais, on l'a encore entendu, mais...
l'opéra. Mais j'ai senti que le, oui, le...
Non, ça le coup, c'était plus accessible. Non, mais
l'audience est en train de tomber.
Le reste, c'est nul, mais ça, ouais, ça c'est bien. Ça.
Et donc, on a entendu Carl Zero chanter.
Songs for Cabriolet, c'est le titre de cet album sorti en 2002, donc avec la douce voix de Carl Zero, qui ressemble un peu à Philippe Catherine.
Oui, on sent moins l'influence de Kawabata sur ces parties-là de votre œuvre.
Vous avez tout écouté, les paroles?
Oui, non, c'est vrai, il faudrait que je m'y replonge.
Alexandre Desplat.
Ouais, c'est vrai.
Mais dans l'opéra que vous créez, Silence, donc à partir d'une nouvelle de Kawabata, comme ce n'est pas une œuvre de commande, est-ce que on va approcher au plus près le compositeur?
Est-ce qu'on... Non, alors je vous interromps tout de suite. non, madame.
Non.
En fait, je considère pas qu'écrire la musique pour le cinéma, ce soit pas moi. C'est vraiment moi à 100%. Quand j'écris une musique de film, qu'elle soit pour Wes ou Roman ou Georges Clooney.
Il y a un récit qui est là et des personnages.
Certes, mais la musique vient, même si c'est l'image qui déclenche cette musique, elle sort de moi et elle est moi vraiment, tout le temps.
Donc peu importe que vous aimiez le film ou pas, en fait, est-ce que ça compte
ça,
le fait...
ça compte un peu quand
même. C'est ça. Si... Non, parce que des images peuvent vous inspirer, mais le film en lui-même ne vous soulève pas.
J'écris pas pour les films muets, mais j'ai décrit pour les films qui me touchent, a priori.
C'est ça.
Le film peut être raté, ça arrive, mais ça, c'est comme ça. Si je suis engagé sur un film, je vais jusqu'au bout du travail. Mais. Non, je veux juste dire que le déplacement vers la musique de concert, bien sûr, c'est un autre challenge parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on se cache pas derrière les dialogues ou la bande son, mais j'écris avec la même intensité, la même probité.
Sauf que là, vous avez choisi le récit. C'est là peut-être la différence.
Peut-être, oui.
Donc ce sera au Grand Théâtre du Luxembourg le 26 février et les 2 et 3 mars au Théâtre des Bouffes du Nord. Alexandre Desplat, à côté, il y a cet individu appelé Guillaume Meurice.
Oui, on va rester un petit peu dans le cinéma parce que je vais vous parler d'une nouvelle série Netflix qui s'appelle Les Élections Européennes 2019. Ça claque, hein. C'est un peu comme Games of Thrones. Voilà, Juncker is coming. Ça fait un peu peur. Beau casting, alors notamment dans la famille Les Républicains, avec François-Xavier Bellamy, qu'on aime déjà vraiment beaucoup, un cœur sur taret, sur le côté, calmez-vous quand même. François Xav, alors c'est le fils caché d'un mocassin et d'un mormon à gland, ou l'inverse, je ne sais plus comment ça marche, c'est compliqué, c'est comme dans Game of Thrones. Il y a aussi les super-héros en réalité augmentée, hein, il y a Rachida Dati, elle est en 3D, hein, assez impressionnant. L'infographiste de la joue a vraiment bien, bien bossé là-dessus. D'ailleurs, pour parler de ça, je suis allé dans son quartier à Rachida.
Elle n'aime pas, elle a dit ça.
Oui, pardon, on la salue, bien évidemment. On l'embrasse, comme André Manoukian. Pour parler de ça, je suis allé donc dans le quartier de Rachida Dati, le 7e arrondissement de Paris. Et dans le 7e, on a de vraies infos.
On est manipulé par l'agence France Presse et vous aussi. Toutes les informations sont données par l'agence France Presse. Hein. C'est là la base. Elles sont orientées, je dirais.
Dans quel sens ?
Y a des lobbies très très puissants du monde arabe qui manipulent un petit peu l'agence France Presse, c'est connu.
Ah bon ?
Oui, je vous apprends quelque chose.
Comment vous savez ça ?
Parce que je suis médecin et puis que j'entends des choses. Mais qui sont sous le secret professionnel.
Et hop, premier rebondissement dans la série, les lobbies arabes manipulent l'AFP. Ça claque hein, comme série, hein. C'est pas mal. Alors, dans Plus belle la vie, les Arabes, ils volent des mobilettes. Là, ça a quand même plus de gueule. Pourquoi Domoran, il fait le 7-9 avec un kéfier en même temps. Voilà, il fallait quand même avoir des doutes. Et puis, c'est pas monsieur Desplat à Tagine qui va me contredire.
Bim, bim.
Total soutien.
Oui, on l'a bossé, on l'a bossé ensemble.
Voilà, les comiques à jeu de mots en
c'est
force.
Fort.
C'est le lobby.
Desplat à Tagine.
Desplat,
c'est gênant. Pardon, Alexandre, pardon.
Respectez un petit peu. Tout le monde.
Je vais y aller. C'est
Non, restez, il y a le lobby islamo-gauchiste qui, bien sûr, contrôle France Inter.
Je trouve que les façons univoques qu'a France Inter de critiquer tout ce qui n'est pas de gauche, c'est un peu gênant parfois.
Ah mince. Je vais essayer de ne pas le faire.
Non, mais vous faites comme vous voulez.
Ouais, je vais plutôt faire comme ça parce que je ne suis pas certain d'y arriver. Je débute dans les séries. Alors après, il faut s'entendre sur ce qu'est la gauche. Hein. C'est vraiment l'éternel problème de tout ce genre de saga. Si tout ce qui est à gauche de Bellamy, ça brasse large en fait. Même Clara Dupont-Mono, elle pourrait être dedans. Une fois, elle ne s'est pas lavé les cheveux pendant 2 jours. Ça, c'est un vrai marqueur de gauche. Alors débutons par ce côté très droite quand même du fameux nouveau prince de la série François-Xavier Bellamy.
Je ne pense pas qu'il soit plus à droite de la droite que les autres. LR est un parti de droite.
Est-ce qu'on fait encore la différence entre la droite de LR et le Front National ?
Évidemment. Vous avez un doute là-dessus ?
Oui.
Eh ben voilà, ça prouve que vous êtes de France Inter.
Ah et putain, voilà. Il est pas
ça, c'est bien.
C'est certainement un druide ou un mage dans la série. Ça, c'est Valeurs Actuelles X ou un mec comme ça. C'est bien joué, bien joué. Alors effectivement, France Inter est la force du mal, hein, guidée par des prophéties mystico-apocalyptiques qu'on appelle aussi chroniques de Mélanie Bauer, dans lesquelles des DJ Rasta Kosovar copulent avec des vibrations électrozouk love tchétchène. Voilà, mec. Voilà, France Inter est également une chaîne où on pose des questions. Les intrigues de la série, donc, quelles sont les différences entre les positions du Rassemblement National, c'est un personnage qui a un peu changé de nom, et les Républicains.
On peut avoir un certain nombre de positions qui sont communes, mais sur l'essentiel, c'est juste impossible.
Qu'est-ce qui les sépare ?
Ce qui les sépare, c'est...
C'est pas simple, hein ?
Non, je sais que c'est pas simple, mais c'est les positions sur... Je sais pas. Je sais pas, c'est une vraie question que vous posez.
C'est une vraie réponse que vous ne posez pas. Hein. Bien sûr, s'il y a toujours le suspense. Ça, c'est le sel de la série. Le suspense, on attend la révélation, on n'en peut plus. Mais revenons au personnage qui nous intéresse. François-Xavier Bellamy, est-il trop conservateur ?
Je l'aime beaucoup, je le lis et je l'aime bien. Il est conservateur, mais qu'est-ce que ça veut dire, conservateur ?
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, conservateur ?
On garde ce qui est bien. Par exemple, je garde Le palais de Versailles, par exemple, il est bien, il est beau, c'est un monument.
Attends, non, oui. Alors, c'est pas conservateur de musée. Attention, là, on va se perdre dans le récit. Attention, restez concentrés. Non, ce qu'on entend là, c'est plutôt ses copinages avec la Manif pour tous et son opposition à l'avortement.
Oui, enfin, il est pas, c'est pas qu'il est conservateur, c'est qu'il a des positions personnelles. On est quand même dans un monde bizarre. Pas moyen d'avoir un petit peu de, comment je veux dire, de nuances. Donc,
est-ce que lui-même a des nuances?
Oui, moi je le trouve assez nuancé.
Oui, quand il dit qu'il est contre l'avortement, il rajoute « à titre personnel, ça n'engage que moi ». Ça, c'est de la nuance. Voilà. Donc je suis prêt à laisser des femmes s'avorter aux aiguilles à tricoter et crever de septicémie dans des flaques de sang, mais c'est perso. C'est perso. Ça, c'est un kiff de week-end, quoi. Je veux dire, ça concerne pas la série, c'est un personnage de nuance. Mais dans une bonne série, évidemment, on ne sera jamais à l'abri d'un rebondissement de dernière minute.
J'ai collé que 20 ans pour Pasqua, alors c'est bon.
Vous avez collé des affiches pour Charles Pasqua ?
Meilleur père à Saint-Ouen. Tu as regardé historique, meilleur père à Saint-Ouen, vous allez voir.
Et là maintenant, qu'est-ce que vous foutez? Vous collez pour qui?
Maintenant, je suis anarchiste.
Ah, vous êtes passé de Charles Pasqua à anarchiste?
Bien sûr, je suis anarchiste. Moi, 57 piges, je suis anarchiste complet.
Et voilà, sans Pasqua, nos futurs, le personnage de Punk CRS qu'on n'attendait pas et qui arrive à la fin. Même Netflix n'avait pas pensé à ça. Voilà, la série sera terminée en mai. Je ne veux pas vous spoiler, mais ça va mal finir.
Merci Guillaume Meurice. 17h43 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter en compagnie d'Alexandre Desplat, à venir Clara Dupont-Mono. Et avant, on va vous soumettre cet autre sujet. Les lieux culturels louent leurs salles au privé. Un salon est même organisé en ce moment pour permettre aux salles de concert ou aux musées de bien valoriser la privatisation de leurs espaces. Il faut croire qu'avant, les gestionnaires culturels n'étaient pas très doués pour se vendre.
Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions, là.
Ah bon ?
Non. En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
Inventif ?
Inventif. Alors, voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif ? Vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés.
Bon, écoutez, oui.
Attendez. Pour la déco, j'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépon orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch. Ça peut faire un truc joli.
Jean-Pierre Macri dans Le sens de la fête de Nakache et Toledano. Alexandre Desplat, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, à titre personnel, comme dirait l'autre, d'entrer dans un lieu de culture pour autre chose que de la culture? Parce qu'il y avait une réception qui était organisée, parce qu'il y avait, on peut pas dire un défilé de celle de la culture, mais une entreprise ait organisé quelque chose, vous étiez là et vous êtes entré dans un lieu.
Vous-même, vous avez loué un lieu. C'est pas...
Non, mais par exemple, les studios à Bayreuth maintenant font ça. Et il m'est arrivé d'être en train de mixer dans le penthouse en haut du studio et de descendre chercher un truc à la cantine en bas et de voir que le grand studio A, le grand studio mythique d'Abbey Road et le B étaient loués à des entreprises pour des fêtes privées d'entreprises. Ça, c'est je comprends la démarche, la nécessité peut-être, oui. mais c'est...
C'est comme, ça paraît incongru.
Oui, parce que pour moi, ce sont des lieux ritualisés et c'est ce rituel qu'on aime quand on va dans ces lieux, que ce soit les musées ou que ce soit des studios, des grands studios. Et ça tue un petit peu le rituel, mais bon.
En même temps, fêter son anniversaire au Louvre, vous seriez contre?
Oui.
Ah oui.
On parle du mariage de Carlos Ghosn à Versailles, justement,
ah oui,
où il y aurait un prêté pour un rendu, effectivement. Mais oui, on a envie que... Parfois, on comprend très bien la logique financière et de pouvoir entretenir les lieux publics, mais il y a aussi parfois, pour certains lieux qui nous sont chers, une forme de sanctuarisation, où on y va dans un espèce de respect et ça fausse un peu la chose.
On ne peut pas en parler trop, parce que nous aussi, ici, c'est le cas, la maison de la radio.
Mais on peut en parler quand même.
Non, mais
je... Oui, par exemple, le grand auditorium. Alors, je sais pas si le grand auditorium... Oui, s'il se loue, je pense, le grand auditorium.
Mais ça a fait jaser.
Il y avait des gens qui...
C'était pour Obama. c'était pour Obama.
À l'Assemblée nationale, par exemple, tout se loue, tous les salons se louent. Il y a toujours les gens qui bossent le plus à l'Assemblée sont les déménageurs. Parce qu'il y a toujours des trucs à trimballer, les chaises.
En même temps, il faut entretenir le bâtiment.
Ouais.
Donc ça fait des rentrées d'argent. Mais c'est vrai que du coup, la barrière du Grand Palais, elle est presque plus connue pour les défilés Chanel. Mmh. Ouais. Hélas, maintenant, enfin, ça fait bizarre, quoi, que les expos.
Alors, il y a des lieux de culture qui ont vraiment intégré dans leur modèle économique la location au privé. Que ce soit si intégré au modèle économique et qu'on compte à fond là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on prend un risque et qu'il faut rester vigilant?
Pourquoi vous me regardez? Vous pensez que je veux louer mon appartement?
Non.
Mon studio?
Il est sanctuarisé ou pas, votre appartement?
Vous arrêtez tout de suite.
Du moment que ça ne gêne pas que le culturel est toujours le dessus, que non, vous puissiez enregistrer sans qu'on vous dise « Ah bah non, aujourd'hui c'est Vinci qui a loué, tu peux pas enregistrer Alexandre. »
C'est vrai que oui, ça peut arriver. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Enfin, pas que je sache. De toute façon, je ne peux pas vérifier les plannings, mais... Qu'est-ce que je ne sais pas quoi dire.
Est-ce qu'Abérode a encore son âme? C'est-à-dire, ça a été tellement désacralisé, le temps a tellement fait son œuvre, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, Abérode.
Quand on y travaille, ça veut dire quelque chose, parce que le son et les équipes qui travaillent là-bas sont hors du commun. Mais non, mais il y a une nécessité économique qui s'impose et on ne peut pas faire grand-chose.
Et Abérode vend des t-shirts et ce n'est pas grave.
Si, ça, c'est plus grave.
Et Sex Pistols, ils vendent des savonnettes.
À titre personnel.
Tous faits. Pas de t-shirt Abérode, vous n'avez pas ramené de t-shirt.
Non.
Alexandre Desplat, passons à, avant de reparler musique, à Clara Dupont-Monod.
Oui, puisque l'actualité, c'est notre invité quand même, Alexandre Desplat. Donc, et parce que vous avez un record, cher monsieur, vous avez été nominé 10 fois aux Oscars en tout. Et ça, c'est un record. Ce record fait l'actualité à lui seul. Et la littérature, qui n'est insensible ni à l'actualité ni au record, prend part à la danse avec un livre qui s'appelle « Le silence de Sandy Allen » de Isabelle Marié. Alors, si vous ne repartez pas avec ça adapté en opéra, Alexandre, je veux bien être pendu. Parce que non seulement c'est le grand livre, c'est le grand livre de la rentrée de janvier, mais c'est aussi un livre qui dissèque l'envers du décor du record. Il se trouve que Sandy Allen a vraiment existé, c'était la plus grande femme du monde, 2m32, 135 kilos, elle était dans le Guinness des records et elle est décédée en 2008. Et voici qu'une romancière, Isabelle Marié, décide de la raconter, de raconter l'histoire de cette femme colosse. Elle le fait avec une construction et une écriture absolument renversante. Et cette écriture est tendue par une question qui est « Comment fait-on pour vivre avec un corps qui est devenu fou ?» Et pire, comment fait-on quand en plus on a un caractère profondément gentil? Parce que l'autre drame de Sandy Allen, c'est qu'elle est gentille. Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas quand elle a 10 ans. À ce moment-là, elle mesure 1m87. Sur la photo de classe, elle est derrière. Avec sa taille, elle sera toujours derrière. Et la classe, comme d'habitude, entame le slogan du géant vert. Vous savez, ho, 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 qui à ce moment-là était en vogue aux États-Unis pour se moquer d'elle. Et Sandy connaît ce slogan par cœur. À chaque fois, elle se fait railler là-dessus. Elle voudrait pleurer. Elle ravale ses larmes, je cite, « Qui l'aidera puisque nul ne lui ressemble ?» Elle ne réagit pas non plus quand le médecin lui annonce qu'elle souffre d'acromégalie, qui est un dérèglement de l'hormone de croissance, ce qui explique sa taille anormale. Elle fait autre chose, elle essaie de s'habituer. Alors c'est compliqué parce que ses grosses mains brisent les objets, sa carrure l'empêche d'être prise dans des bras, et puis surtout, que voit-elle? Qu'est-ce qu'on voit quand on mesure 2m32? Eh bien, on voit uniquement le haut des choses. On voit le crâne des gens, les corniches, on voit la poussière en haut des placards, chose inaccessible aux gens qui ont une taille normale, on voit les taches sur les auvents, les tringles à rideaux, les suspensions, c'est une vie en surplomb. Les miroirs en pied lui renvoient toujours une image décapitée, mais cela dit, pas besoin de miroir pour comprendre qu'on fait peur, et Sandy le mesure, chaque fois qu'elle croise les autres, les terribles autres, je cite, « La main devant la bouche, la compassion dans les yeux d'inconnus. Quel temps fait-il là-haut ? Et le rire qui va avec, les yeux qui se détournent et ceux qui la fixent en prenant leur temps, la pitié retenue, un mouvement de recul, des regards de toutes parts et pas un seul pour l'aimer. » Alors c'est pas tout à fait exact, puisque deux cœurs vont sincèrement l'aimer. Le premier, c'est celui du cinéaste Federico Fellini. Il est bouleversé par Sandy, qu'il découvre dans un journal, et il l'a fait venir sur le tournage de son film « Le Casanova » de Fellini. Et Sandy Allen incarnera la géante, après laquelle court Casanova. Je sais pas si vous avez vu le film, Alexandre, voilà, et ben c'est elle, c'est Sandy Allen. Alors bien sûr, sur le plateau, elle est complètement perdue, elle a chaud, elle boit 30 sodas par jour, elle sourit beaucoup, et l'assistante de Fellini dira, 40 ans après, je cite,
dites, elle me serre le cœur. Une douceur si immense et si passive, que peut-elle devenir ? Le second cœur qui aime Sandy Allen, c'est ce roman. Parce que ce roman, il a même été jusqu'à prendre la forme de Sandy Allen, c'est-à-dire qu'il est bienveillant, il est extrêmement tendre. En fait, ce que la vie n'a pas pu donner à Sandy Allen, eh ben, c'est la littérature qui lui offre. Aucun regard pour l'aimer, pas grave, le roman s'en charge. Et à un moment, Fellini se penche très doucement vers Sandy et il lui offre une montre dont le bracelet a été taillé à sa taille. Mais les doigts épais de Sandy se battent avec le fermoir, elle renonce, elle remet le bijou dans sa boîte, exactement comme elle a remisé ses sentiments dans l'enveloppe corporelle et exactement comme le roman renferme et protège, à la façon d'un écrin, le cœur de Sandy Allen. Je vous redonne les références. Le silence de Sandy Allen d'Isabelle Marié est paru chez Flammarion.
Merci Clara Dupont-Monod. C'est un livre que vous avez particulièrement aimé. Hein.
Ah
vous
oui,
étiez très enthousiaste.
Et je le vois en musique, Alexandre Desplat. C'est pour vous.
Non, on ne vous le dit pas souvent,
c'est vrai,
ça,
hein.
Je pense.
Je mesurais 1m87 comme elle, en fait.
Ah oui,
l'école.
Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je crois que tout ce qu'il dit. Oh là là.
Oui, on est tous suspendus, c'est vrai.
Alexandre Desplat,
c'est
merci beaucoup.
C'est pas une émission, on fait des blagues. Ouais. Il y a un bon moment d'émotion et vous pas vous jeter
à part les jeux de mots sur les noms des gens. Ça
merci Clara Dupont-Monod. Reparlons musique et musique de film avec vous, Alexandre Desplat, car il paraît que trop de films français enregistrent leur musique à l'étranger. Mais depuis quelques mois, l'Orchestre d'Île-de-France dispose d'un studio d'enregistrement ultra performant destiné à attirer les producteurs et les compositeurs, car les orchestres de France rêve aussi beaucoup de cinéma, comme en témoigne ce soliste.
Cinéma ! Cinéma ! Je sens qui je suis ! Je cinéma ! Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien,
Benoît Poulvorde dans cette arrivée près de chez vous, bien sûr. C'est un article qui est paru au mois d'octobre dans le Figaro, au moment où l'orchestre d'Île-de-France a pu prendre possession de ce nouveau studio. Est-ce que vous le connaissez, Alexandre Desplat?
Non.
Alors, l'article du Figaro nous explique qu'il y a beaucoup de films, même français, dont les musiques sont enregistrées à l'étranger, beaucoup dans les pays de l'Est, en Angleterre, peut-être à Abbey Road.
Absolument.
Oui. Et en Belgique. Et que l'idée est de revenir en France pour enregistrer. Quelle technologie il faut particulièrement pour équiper les studios?
Je crois qu'il y a plusieurs axiomes. Le premier, c'est d'avoir un grand volume. Un grand volume pour pouvoir y mettre un orchestre symphonique. À Paris, il n'y en a pas. Nous avons pu enregistrer, grâce à Michel Aurier, ici, avec le National de France, la musique de film Luc Besson, mais il n'y a plus de studio d'avoue à fermer. Il reste le studio Guillaume Tell, mais qui n'est pas très grand, qui est le meilleur studio maintenant à Paris. Pas des congrès à fermer, donc il n'y a plus de grands studios. Il n'y a pas une seule salle comme Abbey Road où on peut mettre un orchestre symphonique. Donc déjà, il y a ce problème-là. Les compositeurs ont chacun un peu des obsessions ou des manières de travailler différentes. Personnellement, j'aime quand un studio a des petites cabines séparées où je peux isoler des instrumentistes, etc. Donc, par exemple, ça, à Abbey Road ou en Amérique, à Los Angeles ou à New York, je peux le faire. À Paris, je ne peux pas le faire. Donc, chaque compositeur a son choix. Et puis, après, il y a aussi une familiarité qui s'installe avec des musiciens d'un orchestre. Que ce soit la London Symphony pour moi à Londres, ou les musiciens que je choisis à Los Angeles, ou ceux que je choisis à Paris d'ailleurs. Il y a toujours des musiciens que j'aime choisir, des solistes. Sol Ray a toujours dirigé de la première chaise de violon solo, l'orchestre à cordes. Et c'est très important parce que c'est ce qui va fabriquer le son. Donc, avant les micros, ce sont déjà les instrumentistes, les musiciens qui vont donner une sonorité. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là, mis bout à bout, qui donnent envie ou pas d'enregistrer dans un lieu ou dans un autre.
Ouais, donc ce n'est pas que ce n'est pas que le lieu et la technologie.
Alors cela dit, je pense que beaucoup de producteurs envoient des compositeurs enregistrer dans les pays de l'Est parce que c'est beaucoup moins cher, tout simplement.
Et oui, aussi.
Voilà.
Et en Belgique, où il y a une certaine qualité aussi, si on peut le dire.
Alexandre Desplat.
Alexandre, nous avons. On adorerait jouer avec vous. On sent qu'on est au diapason avec vous. Donc on a envie de vous faire jouer si vous êtes d'accord.
Voilà le sketch, parce que vous allez évidemment aller aux deux cérémonies, aux Oscars et aux Césars. Deux salles, deux ambiances. On veut vous préparer un petit peu à ça. Guillaume et Charline sont les hosts de chaque côté. Les Césars, c'est...
Bienvenue à la 44e cérémonie des Césars. Je suis Isabelle Huppert.
Je suis Louis Garrel. Est-ce que vous êtes prêts pour 5 heures de cérémonie?
Merci. Alors ce soir, on va rendre hommage au cinéma. Le cinéma, c'est 24 images par seconde.
Il y aura aussi du rire. Nous regarderons ensemble les meilleures répliques comiques dans l'œuvre de Jean-Luc Godard.
Et un invité très spécial, le ministre de la Culture, Franck Riester.
Waouh.
Eh bien, quelle ambiance!
Les Oscars, c'est une autre ambiance.
Wow! Welcome to the 91e Ceremony of the Academy Awards. I am Jennifer Lawrence.
I am Jim Carrey. Est-ce que vous êtes prêts pour la partie tonight?
Tonight, we're gonna have fun, we're gonna smile, we're gonna sing.
We're fantastic, Beyoncé.
And we have a very special guest, Mr. Barack Obama.
Oh, yeah.
Quelle pêche!
Et aux Oscars, vous aurez les prix.
For the best original score, the winner is Mr. Alexandre Desplat!
Oh, yeah, my man!
Alex, are you happy?
Wow, je ne m'attendais pas à voir encore une fois. Amazing! Je voulais dire que la musique au cinéma, c'est l'émotion, l'énergie, la fête, la danse. Mais que ça peut aussi...
Merci Alexandre, pas trop long le discours, we're not in France.
Parce qu'au César, vous aurez aussi le prix.
Et dans la catégorie musique originale la plus déchirante dans un drame intimiste en noir et blanc, le gagnant est Alexandre Desplat.
Bravo Alexandre, tu m'as pris aux tripes. Hein. Quand je t'ai entendu, j'avais tellement la patate que j'ai réécouté tout Barbara avec deux Prozac.
Je suis très heureux.
Pas trop, parce que ça pourrait dénoter, Alexandre.
Ouais, pardon, je veux te dire que le cinéma, ce sont des images. La musique, ce sont des notes.
Non.
Le film et sa musique, ce sont des images notes. C'est l'humanité dans sa fragilité. Et comme le disait Lacan...
Solidarité !
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Nous, la coordination nationale des intermittents du spectacle, nous dénonçons la politique antisociale du gouvernement Macron en démission !
Pardon Alexandre, ce sont les amis de Juliette Binoche, excusez-moi.
Et on suivra le destin de vos musiques, notamment pour les Frères Sisters, le film de Jacques Audiard. Co-scénarisé par l'ami Thomas Bideguin. Merci beaucoup Alexandre Desplat d'avoir
Merci
passé ce moment avec nous. Et nous sommes donc curieux et nous avons hâte de découvrir votre premier opéra de chambre intitulé Silence le 26 février au Grand Théâtre du Luxembourg et les 2 et 3 mars dans un très beau théâtre à Paris, le Théâtre des Bouffes du Nord avec Solerey. Merci beaucoup Alexandre Desplat. C'est la fin de cette émission et nous avons choisi un moment qui montre toute la précision dans vos réponses. L'Europe, elle...
Je suis pour.
Allez, sujet 2.
Une autre question.